14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
C'est une trace de sang, ce n'est pas un ADN par contamination, c'est probablement la preuve matérielle qui a manqué pendant les trois procès d'assises qui ont eu lieu concernant cette affaire. Chaque maire doit au moins des explications aux victimes.
Bonjour, c'est une affaire exceptionnelle, un cas judiciaire rarissime que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire d'un homme qui a été condamné deux fois pour un meurtre avant d'être acquitté, innocenté donc. Coup de théâtre quand il redevient, quelques années plus tard, le principal suspect dans cette même affaire, désigné alors par l'ADN et une tache de sang oubliée. Que faire alors de cet homme, désormais intouchable, impossible à rejuger, puisqu'en droit français, tout acquittement est définitif. Cette histoire totalement kafkaïenne, c'est celle de Jacques Maire, un homme violent dont la silhouette va peu à peu apparaître derrière le meurtre épouvantable en 1987 en Meurthe-et-Moselle de Nelly Aderer, une mère de famille de 22 ans. Jacques Maire sera interpellé, jugé, puis rattrapé bien trop tardivement par un indice. Comment cet homme a-t-il réussi à ne jamais rendre des comptes, se demande encore et toujours les proches de la victime, Nelly Aderer, persuadés de sa culpabilité. Jacques Maire est mort innocent dans son lit.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jacques Maire, le nom de ce maçon, homme marié qui vit dans une petite localité de Meurthe-et-Moselle, va finir par être cité à l'hiver 1987 dans un meurtre qui dépasse l'entendement. Le 31 janvier 1987, vers 8h15, quatre ferrailleurs qui arpentent la décharge du Haut-d'Armont à Rosières-aux-Salines, commune proche de Lunéville, tombent sur un corps supplicié, celui d'une jeune femme. Le spectacle est effrayant. La victime a été amputée de la jambe droite et de ses deux mains. La tête est détachée du tronc, le visage a été lacéré. Un couteau de cuisine ensanglanté est planté dans le sol. Le légiste indique que cette lame a bien servi à découper le corps, mais pas à tuer la jeune femme. La victime a auparavant été abattue de deux balles de 22 longs rifles, la première tirée dans le thorax, la seconde dans le crâne, comme pour un coup de grâce. Les habits de la malheureuse ont été dispersés dans un rayon de plusieurs mètres. Une bottine, un morceau de pantalon. À une trentaine de mètres, au pied d'un talus, un manteau. En fouillant les poches, on sait qu'il appartient à Nelly Aderer, 22 ans, mère de deux enfants. Elle avait quitté la veille, 30 janvier, vers 19h, sa maison de Bertrichamp, où elle vit avec son compagnon et leurs enfants. Ce dernier indique qu'elle a claqué la porte après une dispute. Elle est partie dans la localité voisine, Dombasle-sur-Meurthe, pour retrouver son frère, mais il était absent. Nelly a laissé à son frère un mot sur la porte, écrit avec son crayon en maquillage, en lui demandant de la rappeler chez elle. Il n'était autour de minuit quand elle a quitté l'immeuble, puis plus rien. La police cherche à savoir qui a pu exécuter la jeune femme et découper son corps de cette façon. Les enquêteurs pensent à un boucher ou à un chasseur, mais les entailles sont finalement considérées comme non professionnelles. Le couteau de cuisine ne porte que le sang de la victime, d'autres groupes sanguins sont beaucoup trop mélangés. Aucune trace de sperme n'est découverte sur la dépouille. Les témoins indiquent que Nelly Aderer a pris deux cafés dans un bar de Dombasle. Un locataire l'a ensuite croisée dans le couloir de l'immeuble où vit son frère. Une résidente précise avoir aperçu une voiture, une Citroën GS blanche en stationnement, portant le numéro 88 sur sa plaque d'immatriculation. Le 5 février, les enquêteurs interpellent le propriétaire de la GS blanche, un certain Jacques Maire, 34 ans, un maçon qui vit à Dombasle. Le soir du 30 janvier, il dit être allé chercher son épouse Chantal vers 20h30 à son travail à l'hôpital. Il est ensuite resté au bar Le Caliste jusqu'à la fermeture vers 22h. Il est rentré chez lui, son épouse confirme cet alibi. Elle dormait quand il est rentré. Elle s'est réveillée à 1h30, il était bien dans le lit. Avec elle, aucune suite n'est donnée à l'histoire. Deux ans plus tard, 7 mars 1989, alors que l'enquête Nelly Aderer est en sommeil, le SRPJ reçoit un courrier anonyme demandant de s'intéresser à un certain Jackie Maire pour Nelly et pour la fille Bussé. Odile Busset, 20 ans, mère d'un enfant de 22 mois, disparu à Dombasle en 1983 et jamais retrouvé. Le nom de mère avait déjà été cité dans cette affaire, celui-ci est à nouveau questionné et à nouveau dément son implication dans cette mystérieuse disparition. Pour Nelly Aderer, il ne la connaît pas. Même si Jacques Maire a mauvaise réputation, celle d'un homme violent, un ancien portier de boîte de nuit qui fait peur à tout le monde, il n'y a pas de preuves contre lui dans l'affaire Aderer, ni contre les autres suspects d'ailleurs interrogés au même moment, dont à l'époque le tueur en série Francis Holm, le 21 janvier 1994, 7 ans après le meurtre de Nelly, la justice prononce un non-lieu. Non-lieu qui ne va tenir que 2 ans. On va le voir dans le chapitre suivant, comment l'enquête Nelly Aderer va redémarrer et de façon assez spectaculaire. Il va y avoir ensuite des années de procédure. Restons-en, si vous voulez bien, à ces premières années d'investigation. Et on va s'interroger là-dessus avec notre premier invité de l'heure du crime, c'est Christophe Gobin. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime cet après-midi sur RTL. Vous êtes journaliste à l'Est républicain et vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Nancy avec Samuel Goschmidt que l'on salue chaleureusement et qui assure cette liaison dans l'heure du crime aujourd'hui. Christophe Gobin, vous connaissez très bien cette affaire. Ce qu'on peut dire déjà d'emblée, c'est que cette scène de crime dans laquelle figure Nelly Aderer, cette scène de crime est d'une violence vraiment inouïe, c'est un spectacle épouvantable.
Oui, c'est très très rare qu'on ait un crime aussi épouvantable. D'ailleurs, l'officier de police judiciaire de la PJ qui est arrivé sur les lieux, qui était de permanence, en a été marqué jusqu'à la fin de sa carrière. C'est une scène de crime qu'on peut voir au cinéma dans les polars très noirs américains. Ouais. C'est absolument abominable, quoi. Ça dépasse l'entendement et on n'aura jamais véritablement l'explication pourquoi un tel déchaînement sur le corps de la victime. On sait que toutes les mutilations ont été faites post-mortem. Donc, comme vous l'avez dit, elle a été tuée par balle. Mmh. Et en revanche, les mutilations ont été faites alors qu'elle était morte. Et on n'a jamais véritablement compris pourquoi il y avait un tel acharnement sur son corps. On a pensé que ça pouvait être pour empêcher une identification, mais ça colle pas vraiment parce que, comme vous l'avez dit, on retrouve le manteau avec ses pièces d'identité pas très loin. Donc, ça retarde pas tant que ça l'identification. Donc, on a l'impression que vraiment, c'est une espèce de déchaînement pulsionnel sur elle post-mortem.
C'est vrai que vous le dites très bien, on avait le sentiment qu'on avait voulu la faire disparaître, pas tout à fait puisqu'il y a ce manteau, anéantir cette femme, ne pas laisser d'empreintes, ne pas laisser d'indices. À l'époque, Christophe Gobin, l'ADN, ça fait pas encore la loi, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, l'ADN, ça n'existe pas à cette époque-là, en 87. Donc effectivement, on se retrouve avec une enquête à l'ancienne, entre guillemets, qui va partir d'abord sur son compagnon, qui va être le premier suspect, donc parce qu'on fait l'entourage. Et puis, une fois que lui sera complètement mis hors de cause, on va procéder par cercles concentriques qui vont s'éloigner toujours un peu plus, quoi. C'est-à-dire l'entourage proche, puis moins proche, puis moins proche. Puis après, on va s'intéresser au noctambule de Dombasle. On va partir sur la piste de la mauvaise rencontre.
La mauvaise rencontre et disons-le très clairement, la piste du psychopathe. Pourquoi pas, vu les dégâts occasionnés sur la victime et cette scène de crime que vous avez très bien décrite, qui est totalement épouvantable. Notre deuxième invité, c'est Maître Pierre-André Babel. Bonjour Maître.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne, vous aussi, dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Aderer. Nelly Aderer, elle a été identifiée. C'est la victime. Ma question, elle est toute simple. Qui est Nelly Aderer?
Alors Nelly Aderer, c'est une jeune femme à l'époque qui a 2 enfants, qui vit avec son concubin et qui est relativement heureuse. Mmh. Elle a, le soir des faits, une dispute avec son concubin. Elle décide de partir en stop voir son frère qui habite à Dombasle, rue privée. Et c'est là que le cauchemar va commencer.
Il y a cette dispute avec son compagnon, et son compagnon va être d'ailleurs suspecté, ce qui est bien normal dès le début.
Évidemment, c'est le premier suspect, c'est la première personne qui est dans le viseur des forces de l'ordre, mais assez rapidement, on se rend compte qu'il n'a rien à voir dans la disparition et le meurtre de Nelly Aderer. En effet, il est resté toute la nuit à s'occuper des enfants, et lorsqu'il est entendu le lendemain, il sera placé d'ailleurs en garde à vue, hein. Mmh. Tout de suite, on l'écarte rapidement de la liste des suspects. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le crime.
Nelly, c'est une jeune femme, elle a 22 ans, elle est toute jeune. Elle sort beaucoup, elle est habituée à la vie nocturne, comme ça, à partir, à claquer la porte et puis aller passer peut-être la nuit ailleurs.
Alors, pas depuis un moment. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu un premier enfant, mais c'est la première fois qu'il y a une dispute aussi forte et qui fait qu'elle décide de partir du jour au lendemain, quasiment.
On va maintenant écouter notre troisième invité, Liliane Glock. Bonjour, maître.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate et vous avez été l'avocate de Jacques Maire. C'est une histoire que vous connaissez parfaitement et que vous avez suivie pendant de longues années. On est au tout début là, de l'histoire et il y a ce nom, Jacques Maire, qui ressort. Au détour d'ailleurs d'une indication, c'est sa voiture, une voiture blanche qui est identifiée dans la rue. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a, entre guillemets, contre lui, maître.
Ça ressort au départ, comme vous l'avez justement dit, par une lettre anonyme.
Hein. Oui, c'est ça.
Faut même le rappeler. Et puis le fait que ce soit sa voiture, comme vous dites, ça n'est pas certain non plus. Mmh. C'est une voiture blanche. Immatriculé en 88.
Oui.
C'est ça qui sera dit.
Il y a le numéro 88 dans la plaque, hein, c'est ça.
Donc c'est pas ce qu'a dit le témoin. Ce n'est pas ce que le témoin a dit en 88. Vous savez, ici, il y a les 54 et les 88.
Oui, hein. Les Vosges, les autres, de ne pas savoir conduire.
Bah, oui.
C'est de bonne guerre dans les régions françaises.
Voilà, c'est pour ça que c'est pas innocent. Immatriculé en 88, ça ne veut pas dire avec un 88 dans la plaque.
D'accord. Le fait est, c'est que Jacques Maire, il est entendu, dénonciation anonyme, et puis il y a cette histoire de véhicule. Qui est-il, Jacques Maire? On le présente comme, ça a été dit dans le dossier, comme un peu le caïd local, quelqu'un de violent. Qui est-il?
Alors, écoutez, ça dépend à quel niveau on place le caïda à Dombasle-sur-Meurthe. Mon client,
c'est un caïda nocturne, dirons-nous.
Oui, non, mais je veux dire, mon client est un garçon qui est maçon. Mm-hmm. C'est un travail fatigant. À l'époque, en province, bah, il fait tous les bals du samedi soir. Hein. Mm-hmm. Et certaines boîtes, bon. Ceci étant, violent. Et il n'était peut-être pas le dernier à se bagarrer. Mais si on va regarder son casier judiciaire, c'est ça l'objectivité. Mm-hmm. Ben, il y a quelques petites condamnations, mais petites.
Mmh.
Gaillard qui se bat volontiers à la sortie d'un café, voilà, quelque chose comme ça.
Il n'a pas d'antécédent grave, on pourrait dire, sur son casier judiciaire.
Voilà. Si ce n'est il n'a pas de grosses condamnations, on va dire.
Que des actes de violence. Maître Pierre-André Babel, vous êtes l'avocat de la famille Adereur. Est-ce qu'elle avait reçu des menaces, Nelly? Est-ce qu'elle s'inquiétait?
Non, il n'y avait pas d'inquiétude particulière à l'époque. Il n'y avait pas d'inquiétude particulière. C'était quelqu'un qui avait une vie relativement normale dans la région. Donc non, il n'y avait pas, de choses qui laissaient penser qu'un tel drame allait arriver.
Christophe Gobin, Dombasle-sur-Meurthe, c'est une toute petite ville, tout le monde se connaît. Donc je suppose qu'à ce moment-là, les langues vont très vite se délier. Tout le monde va parler de cette histoire.
Oui, c'est un gros village, hein. C'est ou une petite ville ou un gros village.
Ouais.
Oui, oui, tout le monde se connaît. Et à l'intérieur de la ville, c'est vrai que quand même, Maire a quand même la réputation d'être un peu une terreur locale, fait un peu peur. Alors, est-ce que c'était une réputation usurpée ou une réputation bien réelle, enfin qui correspondait à des actes bien réels? En tout cas, il avait cette réputation-là. Oui, oui.
Avec un physique assez costaud, Christophe. Hein. Maire, c'est
ouais,
un type.
Il portait beau, Maire.
C'est un type sportif.
Ouais, c'est un type qui portait beau. Il passait pas son temps qu'à picoler et puis à faire le coup de poing. Il draguait les filles aussi. Il était un peu dans une quête comme ça. Mais il n'était pas le seul, hein, dans le petit monde des noctambules de Dombasle qu'on a pu voir défiler lors des procès, un peu moins nombreux chaque année en fur et à mesure du temps, quoi. C'était quand même, oui, les nuits de Dombasle, c'était quand même agité, quoi. Hein, ça paraît pas comme ça, hein,
C'était un peu chaud, dirons-nous.
Ouais, c'était chaud. C'était très chaud quand même, quoi.
Le nom de Jacques Maire va réapparaître dans l'affaire Nelly Adereur, tout comme dans celle de la disparition d'Odile Busset. Il va alors faire officiellement figure de suspect numéro 1 dans ces deux dossiers voués à l'oubli. Le 9 décembre 1996, l'émission Témoin numéro 1 sur TF1 est consacrée aux disparitions d'Odile Busset, 20 ans en 1983, et de Sandrine Ferry, 16 ans en 1985, dans cette même région de Dombasle-sur-Meurthe. Une jeune femme et une adolescente qui ne se connaissaient pas, issues de milieux modestes et qui fréquentaient la discothèque locale, le Madison. Le nom de Jacques Maire, déjà apparu à l'époque dans le dossier Busset, est à nouveau cité par des témoins anonymes. Un témoin parle aussi de son implication dans l'affaire Nelly Aderer. La nuit du crime, Maire aurait été vu en train de discuter assis dans sa voiture avec une jeune femme debout sur le trottoir, femme qui ressemblerait à Nelly. Un autre témoin qui dit avoir peur de Jacques Maire va se manifester plus tard par lettre. Il indique que le maçon lui avait proposé, après la mort de Nelly Aderer, de lui vendre sa Citroën GS blanche qui risquerait, lui avait-il dit, de le faire condamner à perpète. La justice rouvre le dossier. Le 10 février 1999, Jacques Maire est mis en examen pour le meurtre de Nelly Aderer. Il conteste les faits. Le juge Thierry Vaux a la certitude qu'il avait voulu se débarrasser de son corps dans les salines de Solvay. Elles étaient gelées. Il aurait abandonné la dépouille dans la décharge locale. Maire est également poursuivi pour la disparition d'Odile Busset. 15 novembre 2004, c'est libre que Jacques Maire comparaît devant les assises de la Meurthe-et-Moselle à Nancy. Il doit répondre de la disparition d'Odile Busset et du meurtre de Nelly Aderer. Les rapports des psys ne prêchent pas en sa faveur. Il est présenté comme coureur de jupons, bagarreur et alcoolique, ne supportant pas la frustration et n'ayant de cesse de vouloir affirmer sa virilité. Un expert le présente comme un psychopathe violent et pervers. Malgré ce portrait accablant fait du caïd de Dombasle, un individu qui réduirait les femmes à l'état d'objet, les jurés ne le condamnent pas pour l'affaire Aderer, ils le condamnent uniquement pour la disparition d'Odile Busset. 15 ans de prison, pas de preuves dans le dossier Aderer, il est acquitté. Deux ans plus tard, octobre 2006, procès en appel devant les assises des Vosges à Épinal. Les témoins sont plus précis, davantage libérés. Cette fois, l'accusé écope de 20 ans de prison pour les affaires Busset et Aderer. Jacques Maire part en prison pour de longues années, du moins, le croit-on. La greffière hospitalisée a oublié de signer le procès verbal. La Cour de cassation ordonne un troisième procès. 6 octobre 2008, troisième procès de Jacques Maire. Avant d'affronter les juges et les jurés des assises de la Moselle à Metz, le maçon s'est fait discret. Il a continué à vivre à Dombasle où, dit-il, il sent des regards s'apesantir sur son passage. L'un de ses avocats, maître Alexandre Boutier, dénonce des enquêteurs qui ont voulu faire de son client un coupable à tout prix. Pas d'empreinte, pas de témoin direct, pas de téléphonie. Sur le couteau, deux groupes sanguins, celui de Nelly Aderer, l'autre est inconnu et ne correspond pas à celui de Jacques Maire. C'est un dossier difficile dont le principal ennemi est le temps. Je n'ose imaginer l'acquittement, mais dans cette affaire, tout est possible. Commente alors Anne-Lise Bloch, avocate de la partie civile. Le 17 octobre, Jacques Maire est acquitté. Cette fois de façon définitive, les affaires Busset et Aderer redeviennent aux grandes dames de la famille des cold case.
Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. C'est pas normal, ça fait presque 18 ans qu'on attend ça, qu'il y a plein de choses qui disent que c'est lui et maintenant ils disent non. Non, j'admets pas, moi.
Maître Liliane Glock, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'avocate de Jacques Maire. Incroyable rebondissement que ce troisième procès. Mais déjà, avant tout cela, comment expliquer que Maire ait été rattrapé par la justice? Qu'est-ce qu'il y a contre lui? Que dit le juge d'instruction?
En fait, il n'y a pas grand-chose contre lui. Hein. Comme vous l'avez rappelé, mon confrère a bien précisé qu'on essaie au fond, avec trois affaires qui ne tiennent pas trop la route, d'en faire une qui va réussir à convaincre une cour d'assises. C'est comme ça qu'on procède par amalgame de trois affaires non élucidées. On regarde qui pouvait se trouver dans les rues de Dombasle la nuit où ça s'est passé. Et on élimine les gens qui n'étaient pas là, ceux qui, y en avait, qui étaient en prison, etc. Et on dit Jacques Maire, eh ben ma foi, il était là. Il est violent puisqu'il se bat à la sortie des bistrots. Ça fait un coupable correct. Voilà.
Qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là, Jacques Maire ?
Il a un discours très...
Attendez, on ne peut pas dire qu'est-ce que Jacquemer raconte à cette époque-là. Mm. Parce que Jacquemer a toujours dit la même chose. Il a toujours été à la disposition de la justice, il ne s'est jamais dérobé. Mm. Il a toujours été jugé libre, il est revenu la fois d'après, il n'a jamais invectivé qui que ce soit, et il a toujours dit... Ouvrez les guillemets, je fais confiance à la justice, fermez les guillemets, quoi qu'il arrive. Il a toujours dit ça. Il n'a jamais cherché à échapper à quoi que ce soit.
La construction selon laquelle il aurait essayé de jeter le corps dans des espèces de bacs, les salines gelées, puis ensuite il s'en serait débarrassé dans la décharge, ça, c'est il y a pas d'élément là-dessus, ou c'est uniquement la construction intellectuelle des enquêteurs et du juge?
Tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est une hypothèse qui a souvent été évoquée par les enquêteurs, parce que, si vous voulez, en effet, c'est saline. C'est un peu comme des sables mouvants.
Oui, tout à fait.
Vous lancez quelque chose, enfin quelque chose, si on peut dire, pour un corps, et il s'enfonce, il disparaît. Donc, si vous voulez, c'est toujours une hypothèse. Ça a été évoqué dans d'autres affaires. Ça a été évoqué dans l'affaire Simone Weber, par exemple.
Bien sûr.
Vous voyez ? Donc, ça vient toujours à l'esprit, mais il n'y a rien pour dire ça. Sauf que là, on est tout prêt. Voilà, on est tout prêt.
Christophe Gobin, journaliste à l'Est républicain, en direct depuis le bureau RTL de Nancy. On peut dire tout de même, avant ces procès, cette série de procès, les témoins ont parlé, les langues se sont déliées. Les gens, finalement, disent « j'avais peur de Jacquemer, j'ai moins peur », etc.
Alors parce que c'est ce qui l'accable, ou ce qui pèse sur lui pour le renvoyer, tant dans l'affaire Bussec, dans l'affaire Adrer, c'est un témoignage dans chaque affaire. Chaque fois, c'est une femme, pas la même dans les deux affaires, qui dit l'avoir vue en présence de la victime dans les heures précédant le crime, quoi. Et le problème de ces témoignages, c'est qu'ils sont venus très très tard. C'est-à-dire ces deux témoignages qui ne sont apparus que 10 ans après les faits, pour chacun plus de 10 ans. Donc c'est énorme. Et alors, pour le témoin de l'affaire Adrer, celle qui le voit en compagnie de Nelly Adrer dans les heures précédant sa mort, quoi, elle, ne plus avoir peur de Jacquemer, non, elle a toujours dit qu'elle avait peur de Jacquemer. Il a même fallu lui envoyer les gendarmes, les policiers, pour qu'elle vienne à la barre lors du procès de Nancy, je crois. Lors du procès d'Épinal, elle était tout sauf sereine à la barre, quoi. Donc non, elle continuait à affirmer qu'elle avait peur de lui. Alors la différence qui fait qu'entre le procès, elle était plus à l'aise à la barre quand même lors du procès d'Épinal que lors du procès de Metz où elle a été un peu prise.
Et on a vu à ce deuxième procès les langues se déliaient véritablement. Les témoins étaient beaucoup plus alertes qu'au premier procès.
Alors elle était plus alerte. Alors c'était au deuxième, hein, celui de d'Épinal. Il y a eu un face à face entre elle et Maire qui a été un des moments un peu décisifs de ce procès à Épinal qui était un procès quand même fou. Hein. Il y a eu ça s'est déroulé dans une tension 15 jours de tension épouvantable, hein, quand même, le procès d'Épinal. Faut bien préciser ça, c'est un procès qui a nul autre pareil, celui d'Épinal. Et Maire se montre, pour la seule fois du procès, se montre agressif. Il se montre agressif avec elle, et elle répond de façon avec pas mal d'aplomb, quoi. Et ça emporte un peu, à mon avis, ça a un peu emporté la conviction des jurés. Ce qu'on retrouve plus à Metz. Hein.
C'est exactement, ça a pesé, vous êtes bien, il y a un triptyque, là, il y a trois procès, effectivement, le deuxième est important, et puis il y a ce revirement à Metz, où Jacquemer est acquitté. Et justement, cet acquittement, on a entendu la voix de la fille de la victime, Maître Pierre-André Babel, avocat de la famille Adrer, et donc fatalement de Nelly Adrer. C'est une désillusion pour la famille qui a, pendant des années, déjà, a suivi ce dossier.
Cet acquittement. Évidemment, statistiquement, à Metz, c'est un choc. C'est un choc parce que le procès d'Épinal avait consacré leur conviction à eux, qu'ils ont depuis des années, à savoir que c'est Jacquemer qui a tué leur sœur. Donc ça, c'est une première chose. C'est un choc, c'est très dur à s'en remettre. Mais d'un autre côté, je ne pourrais pas dire que la famille ait été surprise par cette décision. Parce qu'il faut savoir qu'on a un troisième procès, pour des faits qui sont très anciens, avec des témoins qui ont vieilli, qui sont fatigués, qui à chaque fois se font éperonner par les avocats pour répondre à des questions, qui sont mis sur le grill et qui finissent par se contredire. Et un dossier qui ne repose que sur des témoignages devient très fragile avec le temps qui passe. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Metz, l'ensemble des témoins sont épuisés.
Je suppose que vous avez, à l'époque, regretté un petit peu la faiblesse de l'enquête, parce qu'effectivement, vous le dites vous-même, ce sont des témoignages fragiles qui accablent Jacques Maire. Donc, par contre, les pièces à conviction, les indices, les preuves, il n'y en a pas.
C'est toute la difficulté de ce dossier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est course contre le temps.
C'est ça.
Et on la continuera après le procès de Metz, d'ailleurs. C'est une course contre le temps parce qu'à l'époque, l'enquête est insuffisante, les moyens techniques sont insuffisants pour déterminer, avoir des preuves matérielles pour désigner un coupable. Donc on s'en rapporte à des témoignages.
Exactement.
Le témoignage humain reste fragile et on s'en rapporte à des vérifications et contradictions que Jacques Maire peut avoir sur son emploi du temps le soir-là. C'est vrai, on va être clair, on va pas se mentir, c'est un dossier qui est fragile lorsqu'il arrive déjà devant la cour d'assises de Nancy.
Jacques Maire, 55 ans, se retrouve libre, totalement blanchi par la justice. Il ne pourra plus être jugé dans les dossiers Busset et Adereur. Un verdict incompréhensible et inadmissible pour leurs familles qui vont tout faire pour relancer l'enquête. Au lendemain de l'acquittement de Jacques Maire, les frères de Nelly Aderer ainsi que son ancien compagnon Michel Miclot affirment qu'ils ne baisseront pas les bras. Selon eux, la justice est fourvoyée en innocentant le maçon. Tous sont convaincus que cet homme est bien le meurtrier de leur sœur et compagne. Cette histoire a gâché toute notre vie. La mienne et celle de nos deux filles, on a jeté le doute sur moi. Depuis ce jour-là, je n'ai eu qu'une unique idée. Retrouver le meurtrier de Nelly, confie l'ex-compagnon Michel Miclot. Une famille qui demande à la justice, au regard des progrès des techniques ADN, de pratiquer de nouvelles expériences. Des proches qui mettent en avant l'exemple de l'affaire du petit Grégory, qui fait l'objet de nouvelles analyses scientifiques. En juillet 2009, la justice rouvre ainsi le dossier Nelly Aderer pour procéder à des analyses génétiques de dernière génération. Janvier 2014, 5 ans après le redémarrage de l'affaire Aderer, un laboratoire bordelais spécialisé dans les recherches ADN en matière criminelle fait une découverte tout aussi étonnante qu'inespérée pour la famille de la victime. Une micro-tache de sang analysée sur un morceau du jean que portait Nelly la nuit de sa mort révèle un ADN masculin qui n'est autre que celui de Jacques Maire. Le maçon avait pourtant toujours affirmé qu'il ne connaissait pas la victime et ne l'avait jamais approchée. La micro dissection par infrarouge, technique alors nouvelle, a permis d'isoler cette trace génétique. Les proches de Nelly voient là la preuve de la culpabilité de Jacques Maire. Il va falloir qu'il nous explique comment son sang a pu se retrouver dans la poche du jean de ma sœur, dit son frère Bruno Aderer. Satisfaction vite refroidie. Jacques Maire est hors d'atteinte, il a été jugé et acquitté. Il a même été indemnisé à hauteur de 200 000 euros pour détention arbitraire. On ne peut donc plus le poursuivre dans cette affaire. Au mieux, il peut être interrogé en qualité de témoin. Christophe Gobin, journaliste à l'Est républicain, en direct depuis le bureau RTL de Nancy dans l'heure du crime. Vous connaissez parfaitement cette affaire. L'ADN, c'est une vraie découverte, cette trace ADN. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas vue auparavant ?
Alors moi, je suis pas un spécialiste de l'ADN, mais ce que j'en ai compris, c'est que les progrès qui a eu en matière d'ADN permettent maintenant même de traces invisibles à l'œil nu ou qui ne se voient pas, de permettre qu'il y ait quand même une expertise et de mettre le nom de quelqu'un sur cet ADN. C'est ce qui a été utilisé pour Grégory aussi.
Quoi. Voilà, c'est ça. Alors justement, je voulais un mot là-dessus parce que c'est entre guillemets la jurisprudence Grégory. On sait que Grégory, l'histoire, elle a été rouverte grâce à l'ADN avec des nouvelles recherches. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que la famille se fonde là-dessus pour faire avancer l'enquête, c'est ça ?
Tout à fait. Juste avant, il y avait Grégory qui avait ouvert la voie en disant qu'il y avait la famille les parents de Grégory qui avaient rouvert la voie en disant qu'il y avait des progrès de la science. Ils étaient allés voir un labo en Suisse qui avait confirmé qu'effectivement, il y avait eu des progrès de fait et qu'on pouvait, à base de prélèvements vraiment infimes d'ADN, là où il fallait beaucoup d'ADN, maintenant des très petites quantités, permettre quand même d'arriver à des résultats. Et la justice a embrayé pour Grégory. Donc, dans la foulée, la famille d'Adrers c'est à demander ce qui est les mêmes expertises de fait. À la différence près, c'est que dans Grégory, ça n'a pas abouti, l'ADN n'a rien donné. En revanche, dans l'affaire mère, ça a donné quelque chose.
C'est ça, il y a une trace, il y a un résultat de la part de ce labo de Bordeaux. Liliane Glock, vous défendez Jacques Maire. Cette trace ADN, tout de même, là, elle est difficilement contestable.
Ah, c'est pas sûr, attendez, vous allez vite. La première chose, c'est qu'on retrouve sur ce pantalon des traces de sang. C'est ça, la première chose. Mmh. Or, il faut savoir que ce pantalon est passé entre les mains du laboratoire de police scientifique de Lyon, je crois une petite dizaine d'années avant, et il n'y avait pas de sang sur le pantalon. Mmh. C'est quand même extraordinaire que ce sang ait atterri tout d'un coup sur le pantalon.
C'est peut-être une micro-tache, maître, non ?
C'est possible. Mais vous voyez, on parle un petit peu dans le vide parce que c'est le secret de l'instruction, personne n'a accès à cette expertise qui serait toute nouvelle. C'est une technique qu'on n'a pas encore utilisée. Donc c'est quand même un peu difficile d'affirmer quand on ne sait pas.
Bien sûr.
Moi, j'avoue que je suis tout à fait perplexe. Hein. Jacques Maire a quitté. L'avantage pour lui, s'il n'était pas mort, c'est qu'on ne peut plus le reprendre pour
Bien
cette
sûr.
Affaire.
Mmh, mmh.
L'inconvénient, c'est qu'il ne peut rien savoir de l'enquête qui est en cours.
Exactement. Donc,
si vous voulez, on nous jette à la figure des choses comme ça, avec des mots scientifiques, etc. C'est un peu facile.
Oui, il n'a pas accès au dossier, on aurait pu peut-être le savoir avec des contre-expertises, mais en l'occurrence, tout est bloqué. Maître Pierre-André Babel, quand il y a cette expertise qui est... vos clients, évidemment, sont heureux, on les comprend, il y a peut-être un lien avec Jacques Maire qui est établi, mais tout de suite, vous leur dites attention, c'est pas si simple, de toute façon, il y a plus de poursuites possibles, c'est ça ce que vous dites à vos clients ?
Vous avez tout à fait raison, c'est un peu la fausse bonne nouvelle. Dans le sens où les analyses ADN ont fonctionné, on a fait la demande, ça a fonctionné, on a des résultats. Sauf que le juge d'instruction, suite à notre demande, j'avais demandé à ce que toutes les personnes qui avaient été mises en cause dans ce dossier soient comparées avec cette tâche d'ADN. Mmh. Donc j'avais vu large. Et le juge va dire, on va commencer par Jacques Maire pour l'écarter définitivement de ce dossier. Et l'analyse tombe, c'est lui. Donc c'est une fausse bonne nouvelle dans le sens où mes clients se rendent compte que eux, leur conviction va être concrétisée par enfin un élément matériel dans ce dossier, une tache de sang où figure l'ADN de Jacques Maire dans la poche, à l'intérieur de la poche du jean de Nelly, je le précise, et dans le même temps, on est obligé de leur dire, écoutez, on ne peut pas rejuger les gens.
Ouais,
tant que la loi française n'aura pas changé, on ne peut pas le rejuger.
Donc,
simplement, on a une petite chance, c'est que les avocats de Jacques Maire vont demander que celui-ci soit réentendu.
Et on va voir ça, évidemment, dans la suite de l'heure du crime, ce fameux témoignage. La justice va continuer à enquêter sur l'affaire Nelly Aderer et va à nouveau croiser la route de Jacques Maire à travers de nouveaux témoignages. En mars 2011, soit 3 ans avant la découverte de la fameuse trace ADN, un nouveau témoin avait indiqué que Jacques Maire et Nelly Aderer se connaissaient. Ils se seraient rencontrés au domicile de ses parents. Nelly y était alors hébergée avec sa première fille. Jacques Maire se rendait à cette adresse pour certaines parties privées à caractère sexuel. Un cahier du maître de maison a été retrouvé, consignant effectivement les prénoms Jackie, le diminutif de Jacques Maire, et Nelly. Même si rien ne prouve que le Jackie en question est bien le maçon, maître Pierre-André Babel, avocat de la famille Aderer, va utiliser ce témoignage pour essayer de faire rebondir le dossier. Le 10 mai 2017, il sollicite ainsi l'audition de ce témoin surprise, mais le juge d'instruction rejette la demande. Le magistrat répond que Maire a été définitivement acquitté et que, je cite, toute recherche le concernant est vouée à l'échec puisqu'il ne pourrait en aucun cas être rejugé, même s'il survenait un élément à charge nouveau. 7 décembre 2017, même si Jacques Maire reste hors de portée de la justice, la Chambre de l'instruction de Nancy ordonne son audition. C'est un grand pas vers la vérité qui a été franchi, témoigne l'avocat de la famille Aderer. Il ajoute... Une éventuelle condamnation de Jacques Maire n'est pas l'objet de cette procédure. Il s'agit simplement de savoir ce qui est arrivé à Nelly. Satisfaction de courte durée. Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2018, Jacques Maire échappe définitivement à toute explication. Il décède à l'âge de 64 ans des suites d'un infarctus. Il ne témoignera pas. La mort de Jacques Maire ne clôt pas l'enquête, mais c'est un obstacle, constate dépité la famille de Nelly. Et je vais poser dans cette heure du crime la même question aux deux avocats, et tout d'abord à l'avocate de Jacquemert, Liliane Glock. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette audition ? Dans quel état d'esprit, une nouvelle fois, était votre client, Jacquemert ?
Bah, écoutez, son état d'esprit, là, il est facile, bien qu'il soit décédé, à décrire. C'est qu'il a accepté, par écrit, par mon intermédiaire, j'ai écrit au juge d'instruction parce qu'il était d'accord, pour être entendu comme témoin. Il faut quand même préciser qu'on ne pouvait pas l'obliger à témoigner.
Bien sûr.
Il fallait son accord. Et du fait qu'il était acquitté.
Et lui, donc, il avait dit OK, hein, tout de suite.
Voilà. Et puis quand même, par écrit. Je veux dire, on avait le temps de l'entendre. Hein. La justice a quand même tardé, quoi. Je veux dire, là, en 2018, on se situe 31 ans après les faits, quand même.
C'est énorme.
Il a la bonne volonté de dire, alors qu'il a été acquitté, qu'il a subi un certain nombre de choses quand même, il dit ben d'accord, moi je veux bien être entendu, comme il avait lui-même demandé qu'on réexamine des scellés. Je vous dis, on peut pas dire il échappe à toute explication.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est vraiment pas sa faute. Si vous voulez, il a toujours été à la disposition de la justice.
Il ne se dérobe pas, c'est un fait acquis. Maître Pierre-André Babel, avocat de la famille Adereur, je suis sûr que vous partagez ce que dit Liliane Glock, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tardé à l'entendre à nouveau, Jacquemert.
C'est toujours la même course contre le temps, c'est-à-dire que le dossier de Nelly Adereur n'est pas prioritaire. Il y a d'autres choses qui avancent plus rapidement en matière criminelle, mais c'est sûr qu'on a un petit peu tardé et qu'on savait pourtant que son état de santé était fragile, puisqu'il avait déjà eu des infarctus dans sa jeunesse. Donc c'est sûr que c'est un petit peu tardé, et que le problème, c'est qu'on attendait honnêtement et avec sérénité les explications de Jacquemert sur au moins la trace ADN.
Bien sûr. Christophe Gobin, journaliste à l'Est républicain, les avocats le disent, il y a cette course contre le temps. Évidemment, vous partagez ce sentiment. Plus de 30 ans pour attendre, pour réentendre Jacquemert. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce témoignage dont j'ai fait état, de cette femme qui dit que elle a connu Nelly Adereur et que Nelly Adereur connaissait Jacquemert. C'est fiable ou pas ?
C'est difficile à dire, c'est le problème des témoignages et de l'écoulement du temps, quoi. C'est-à-dire que on peut supposer. Alors il y en a eu deux témoignages, il y en a eu un premier effectivement, vous avez évoqué, puis il y en a eu un deuxième une deuxième femme s'est manifestée juste avant qu'il puisse être interrogé pour dire qu'effectivement elle avait assisté à une scène de violence mettant en scène Nelly Adereur et Jacquemert. Je pense que ces témoins-là, ils étaient enfants quand ils ont vu les scènes ou quand ils ont assisté à quelque chose. Quand bien même il serait honnête, sincère, ce qui est vraisemblablement le cas, quoi. Après, il y a tout l'écoulement du temps qui fait que les souvenirs s'émoussent, sont réinterprétés, et on les revit à sa façon, surtout s'ils sont un peu traumatiques, comme c'est le cas du deuxième témoignage. Donc c'est toujours à manipuler avec des pincettes.
Jacquemert décédé, le dossier semble désormais condamné à s'éteindre doucement. La famille de Nelly Adereur et ses avocats vont tout faire pour repousser cette échéance inéluctable. Le 20 novembre 2021, les avocats et les proches de Nelly Adereur sont informés que l'affaire va être définitivement close. Il ne sera donc pas donné suite à de nouvelles expertises ADN, pas de suite non plus au témoignage de dernière minute d'une mère de famille de Nancy. Angélique affirme qu'en 1987, elle avait alors 10 ans, elle a vu un soir sa mère, son beau-père et d'autres hommes, dont Jacquemert, tabasser celle qu'elle identifiera bien plus tard comme étant Nelly Adereur, après l'avoir reconnue en photo dans un journal. Les avocats de la famille ont demandé l'exhumation du corps du beau-père pour savoir si son empreinte génétique se trouvait, elle aussi, sur le corps de Nelly Adereur. La justice n'a pas suivi. Il est temps de laisser Nelly Adereur reposer en paix, indique alors Maître Babel. Tous les 31 janvier, Mélanie Miclot, l'une des filles de Nelly Adereur, se rend sur la tombe de sa mère. Elle avait 4 ans quand celle-ci a été assassinée. Longtemps, je suis resté bloqué sur cette affaire. J'avais même peur que le meurtrier s'en prenne à moi. Maintenant, je pense qu'il faut que nous essayions tous d'aller de l'avant et de refaire notre vie. Maître Pierre-André Babel, vous êtes l'avocat de la famille Aderer et notamment des frères de Nelly. C'est vous qui dites il est temps de laisser Nelly Aderer reposer en paix. C'était compliqué pour les frères de Nelly de comprendre cela, ce message ?
C'est toujours pour la mère aussi de Nelly, hein, qui est toujours en vie, Suzanne. C'était quelque chose de très très difficile, même s'il s'y attendait, parce que on sait que les autres personnes qui sont mises en cause aux côtés de Jacquemert dans ce dossier, dans cette seconde partie d'instruction, sont décédées. Mmh. Et la course contre le temps, c'était aussi une course contre la mort de ceux qui avaient commis ce crime.
Bien sûr.
Mmh. Et donc on l'a perdu cette course au moment où on avait finalement des éléments, des témoignages, pas un seul mais plusieurs témoignages, et on avait un élément matériel. Eh ben, on ne peut pas aboutir.
Maître Liliane Glock, avocate de Jacquemert. Jacquemert est décédé. Il est mort innocent. Il est mort dans son lit innocent. Mais on a le sentiment qu'il reste le témoin numéro un dans cette affaire. C'est quelque chose qui est encore lourd à porter, sûrement.
Bah écoutez, pas pour lui, hein, puisque pour lui, c'est terminé. Mmh. Il y a ses proches, évidemment, il y a sa femme, il y a son fils, etc. Mais c'est vrai que finalement, tous ces développements ne visent qu'à accuser Jacquemert, même après son décès. Mais je crois, et vous allez finir par poser la question, c'est une très mauvaise idée de permettre aux parties civiles de remettre en cause un acquittement. Ça n'a jamais été comme ça et je souhaite vraiment que ça ne le devienne jamais. J'aborde la question parce que cette famille n'est pas la seule à avoir demandé ça. Il y a la famille d'un des enfants de Montigny qui a dit « la partie civile devrait pouvoir remettre en cause un acquittement s'il y a un élément nouveau ».
C'est vrai.
Je pense que c'est une très mauvaise idée, en tout cas au niveau de la cohérence sociale, de l'ordre public, de l'autorité des décisions de justice, je pense que c'est une mauvaise chose. Vous venez de nous expliquer que la fille de Nelly Aderer, finalement, a souffert pendant toutes ces années.
Oui.
De l'âge de 4 ans à aujourd'hui où elle est adulte, elle n'a pas cessé de souffrir, ce qu'on comprend parfaitement.
Mais...
C'est aussi... La durée, vous rendez
bien
compte
sûr,
la durée de la procédure.
Mais elle le dit, hein, Mélanie Miclot, elle dit maintenant il faut qu'on refasse notre vie.
Voilà.
Il faut que la page se tourne. Et effectivement, vous avez raison, maître, de souligner le fait qu'une affaire jugée, c'est toujours une affaire jugée. Un acquittement est un acquittement. On ne peut pas remettre en cause la loi comme ça du jour au lendemain. Mais encore une fois, à la décharge de maître Babel qui m'écoute, il y a une volonté, effectivement, d'en savoir plus, maître. C'est ça, cette quête, c'était pas forcément peut-être d'incriminer les uns ou les autres.
Non, c'était la quête de la vérité. C'est la quête pour savoir ce qui est arrivé à Nelly Aderer, avoir tous les éléments. Et ça, on a échoué. Cela dit, on a échoué sur un aspect, mais d'un autre côté, on a réussi à récupérer des éléments inédits par rapport à la première procédure. Ces éléments inédits sont des témoignages et des éléments matériels. Jacquemert est innocent aux yeux de la justice. Maintenant, chacun se fera sa conviction. En ce qui me concerne et la famille, on a la nôtre.
Oui, en tout cas, la justice, effectivement, a très clairement expliqué qu'on ne revenait pas sur la chose jugée. Et on comprend bien Maître Glock quand elle dit qu'effectivement, quelque chose qui est jugé, on ne va pas y revenir parce que là, on ne s'en sortirait pas. Les dossiers exploseraient dans tous les sens. Christophe Gobin, journaliste à l'Est républicain, la leçon de cette histoire, finalement, c'est qu'on est face à un cold case, toujours. Officiellement, il n'y a pas d'explication à la mort de Nelly Aderer.
Non, effectivement, officiellement, judiciairement, l'affaire, elle est non résolue. Et par contre, dans l'opinion publique, il y a quand même le nom d'un suspect numéro un qui vient, quoi. Donc, il devient
en permanence, en boucle.
Bah ouais. Donc, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Maître Glock là-dessus, quoi. Le fait de pas remettre en cause sur un élément nouveau, hein, bien sûr, il s'agit pas de remettre en cause des décisions de justice sur rien du tout. C'est quand il y a un élément nouveau. Et surtout un élément matériel, ce qui était le cas ici, c'était pas juste un témoignage, c'était l'ADN, c'était un élément matériel. Je pense que ça aurait mérité de peut-être, oui, peut-être un procès, je ne sais pas, mais ça aurait mérité de, plus d'investigation. Mmh. Je pense que les demandes qui avaient été présentées par la partie civile pour y ait des, encore là des comparaisons d'ADN, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a deux ADN inconnus qui ont été retrouvés sur le corps de Nelly Adrer, sur les vêtements de Nelly Adrer. Donc ces deux ADN inconnus, ils permettent peut-être d'avoir de rouvrir des pistes. Ça aurait été possible de faire des comparaisons. Bon, la justice a décidé autrement. De toute manière, ça fait plusieurs années qu'ils brûlaient de refermer ce dossier, puisque c'était vraiment la partie civile qui a dû batailler pour avoir les investigations. Pour moi, je trouve que c'est dommage, mais je suis journaliste, moi, donc je suis pas juriste. Donc, moi, j'aurais bien aimé avoir la vérité, quoi.
Merci beaucoup, Christophe Gobin. Vous étiez en direct depuis le bureau RTL de Nancy. Merci à Samuel Goldschmidt qui était à vos côtés. Merci, maître Pierre-André Babel, et merci, maître Liliane Glock, d'avoir été les invités de l'heure du crime pour vos explications très claires et vos enseignements. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.